maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous sur le stand d'Asmodée, puisqu'ils en sont partenaires. C'est Libellude, représenté par Régis Bonnesset, qui nous accueille. Bonjour Régis.
Bonjour les boîtiastes.
Bonjour. Alors, on est sur un jeu qui est Fabula, qui est sorti maintenant. Je vais juste faire une petite digression sur le succès d'Ixit, parce qu'il faut, tout entendre, il faut en parler quand même. Quelles sont les retombées actuelles du Spiel? Donc, Spiel des CRS 2010, Dixit. Qu'est-ce que ça fait en tant que Libellus, sachant que vous êtes créé pour Dixit? Vous avez fait votre route, vous avez eu le succès jusqu'à aller jusqu'au Spiel. Est-ce qu'on peut espérer plus?
Alors, qu'est-ce que ça représente, le Spiel? C'est avant tout un énorme changement pour nous sur l'Allemagne. Avant, c'était une diffusion assez confidentielle. On était peut-être à 3 à 4 000 boîtes. Là, c'est quand même une production de 300 000 boîtes qui a été lancée grâce au Spiel des CRS. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une chance inouïe qui se présente une fois dans sa vie. Et c'est vrai que ça permettra vraiment pour les années futures à Libellude de devenir une société pérenne et développer d'autres jeux. Et ça, c'est vraiment ce qui pouvait arriver de mieux pour nous. Voilà.
On peut dire que c'est un rêve qui se réalise.
Le Spiel, un rêve, en fait, on ne l'a jamais vraiment calculé avec Jean-Louis. Voilà, c'est... Autant avec certains jeux, certains formats, on peut se dire, tiens, on peut espérer être sélectionné et tout. Autant là, on nous avait tellement dit que c'était pas un jeu pour le marché allemand, pas pour les Allemands, et que de toute façon, en plus, le graphisme leur plaisait pas, qu'on n'avait même pas calculé qu'on pourrait être nominé. Donc en plus, le gagner, c'est vraiment, vraiment du bonheur.
C'est vraiment une belle histoire. Tu parlais de 300 000 boîtes, ça veut dire quoi? C'est le Spiel est un prix pour lequel vous recevez... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit à part un pion en plastique?
On reçoit rien, on donne même des sous en fait. Parce que sur chaque boîte vendue avec le logo du Spiel imprimé dessus, on donne des royalties à l'association du Spiel des CRS. Cet argent va leur servir justement à continuer à faire des événements, des choses pour promouvoir un petit peu leur prix. Ils font a priori, ils ont fait un super boulot vu que le prix est très reconnu en Allemagne et de par le monde maintenant. Voilà, donc concrètement, voilà, ça nous coûte de l'argent, mais à la fois, c'est des retombées tellement énormes. Ça veut dire que toutes les grandes surfaces allemandes vont le mettre en tête de gondole. Il y a plein de clients qui ne connaissaient même pas Dixit, quand on commande plein, c'est dans toutes les grandes surfaces, toutes les boutiques. Donc du coup, ça, voilà, c'est comme si en France, c'était vendu dans tous les Auchan, les Carrefour, et en Belgique, je ne sais pas ce que... Voilà.
Il y a l'équivalent,
voilà. Donc,
Ça veut dire que c'est vraiment... Ce prix a une aura de par son label, quoi. C'est pas une aide à la production ou une aide à l'édition.
C'est ça, ça veut dire que je pense qu'au fil des années, ils ont fait un super travail. C'est cette association du Spiel des CRS, ce qui fait que les gens font confiance à c'est devenu un label pour eux de qualité, ce qui fait que les Allemands, on dit que l'Allemagne joue beaucoup, mais il y a beaucoup d'Allemands aussi qui achètent 1, 2, 3 jeux par année, dont le Spiel régulièrement. Voilà, c'est-à-dire la veille des fêtes, ils se disent tiens, on va prendre le Spiel des CRS, on leur fait confiance sur leur choix, a priori c'est un jeu familial, on va pouvoir y jouer tous ensemble. Donc après, il y a deux cas de figure, hein. Soit ça plaît pas aux Allemands et du coup ça va retomber comme un feu de paille, soit le public accroche et puis du coup ça continuera. De plus belle, mais bon, ça c'est encore un petit peu tôt pour le dire.
Voilà, donc ça, on va pas dire que c'est la clôture de l'histoire d'Ixit, mais Dixit est vraiment sur les rails, c'est un fer de lance, on va dire, pour Libellude.
Ah, c'est un fer de lance là. Il y a Pierre Gobil d'Asmodée qui m'annonçait tout à l'heure qu'il venait d'être jeu de l'année en République tchèque. Voilà, donc c'est. Voilà, donc au-delà des prix, c'est que ça montre vraiment pour nous que ça plaît un petit peu partout et surtout que ça se diffuse dans plus en plus de pays, des pays qu'on n'aurait même pas imaginé. On n'aurait même pas imaginé voir Dixit, quoi. Voilà.
Ok, donc ça, c'est l'histoire, comme je disais, c'est l'histoire Dixit. Mais le jeu dont on va parler, c'est Fabula, et qui était déjà sous les presses, on va dire, à l'époque où Dixit a été primé. Donc c'est pas une histoire de se dire, chouette, on a le Spiel, on va sortir Fabula.
Non, on n'a pas du tout surfé sur la vague. En fait, l'histoire, ça a commencé par une stagiaire, Mélanie Fentes, qui m'avait contacté pour faire un stage en illustration au sein de Libellude. Je l'ai rencontré, j'ai vu ses travaux, c'est vrai qu'il y a eu un vrai coup de cœur. Je les ai fait partager avec Jean-Louis, qui a eu la même opinion que moi. Et on s'est dit, tiens, si on essayait pour mettre à profit son stage, d'essayer de développer quelque chose sur de ça. C'est comme ça qu'est né Fabula, voilà, c'est une rencontre. Donc moi aussi, c'est complètement atypique, mais moi j'adore aussi le côté humain, les rencontres qui font qu'il y a des projets qui se font parfois.
Ça veut dire que le jeu est né de par son illustration?
Ouais, beaucoup, ouais. Ouais.
C'est vraiment tout à fait atypique.
Un chemin complètement à l'envers. D'habitude, on trouve des règles, on cherche quel illustrateur pourrait faire quelque chose. Et là, on s'est dit, tiens, elle a cet univers-là, qu'est-ce qu'on pourrait en faire?
Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis en compagnie de Mélanie Fuentes, j'ai vérifié cette fois-ci, qui est en fait l'illustratrice de Fabula. Bonjour, Mélanie.
Bonjour.
Alors Mélanie, c'est la première fois que tu illustres un jeu, puisque je le sais, tu peux dire oui à ma question, mais je sais déjà que c'est oui, puisque Régis m'a dit qu'en fait c'était lors d'un stage chez Libellude que tu as montré en fait ton travail et que ça a accroché.
Voilà, c'est ça.
Donc tu viens quoi, d'une école d'illustration ou quel est ton parcours ?
Alors en fait je viens d'une école, l'école pivot de Nantes, où j'ai fait une section illustration.
D'accord. Et donc tu t'es dit tiens, j'aimerais bien illustrer un jeu ou que...
Non, en fait ça s'est fait comme ça, en fait à la suite d'un stage. Un stage qui devait justement valider mon diplôme. Et donc du coup, je suis arrivée là-dedans à la suite de ce stage.
Et tu aurais pu faire un stage ailleurs, donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce stage chez Libellude ?
L'occasion, parce que ça s'est présenté comme ça, donc voilà.
Ok, d'accord, je n'en saurais pas plus. Donc, Régis m'expliquait que finalement, l'univers graphique que tu as apporté comme ça lors de ce stage-là les a fait tiquer, comme on dit, c'est-à-dire il y a eu un déclic, ils ont fait un jeu sur base de cet univers-là. C'est une manière de créer un jeu qui n'est pas habituel. Comment est-ce que toi tu as appréhendé cette manière de jouer ? Est-ce que tu es joueuse à la base ? Et est-ce que tu t'attendais à ce que finalement, en faisant ton stage, ton illustration soit utilisée comme étant vraiment le vecteur du jeu ?
Ah ben non, pas du tout, moi je m'y attendais pas du tout, sachant que oui, je suis pas du tout dans le domaine du jeu. Moi je joue rarement au jeu, mais bon, ça s'est présenté et puis j'en suis très contente. Hein.
Est-ce que ta manière d'illustrer la chose, puisqu'il y a eu un point de départ, tu as illustré des choses et puis le jeu est né, est-ce que tu as modifié certaines choses dans tes illustrations ou est-ce que tu as changé ta manière d'illustrer sur base du jeu ?
Bonne question, je sais pas. Non, je pense que ça s'est fait tout seul et puis en collaboration avec Régis et Jean-Louis.
Régis et Jean-Louis Roubira qui sont les auteurs
du jeu. Voilà.
Et donc, on ne va pas passer sur l'histoire du jeu, mais moi ce qui m'intéresse c'est ton sentiment par rapport à un salon comme ici, c'est-à-dire c'est un peu un événement de fou quand on n'est pas habitué. On est jeudi, tu viens de faire des dédicaces toute la journée. Quelles sont les premières impressions que tu as eues quand le salon s'est ouvert ?
Déjà c'est impressionnant parce que moi je suis pas habituée à ça et très très plaisant au final parce qu'il y a un petit échange même si je parle pas très bien anglais et puis encore moins allemand, mais déjà il y a un échange et puis voilà, l'expérience se fait comme ça quoi.
Tu es étonnée que les gens viennent te demander des dédicaces ?
Oui, je suis étonnée parce que je pensais pas déjà que en faire autant déjà, c'est oui. Surtout ça. Donc,
oui, attends-toi à avoir mal au poignet.
Voilà, oui, mais ça y est déjà, j'ai déjà mal au poignet.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as envie de continuer dans ce genre d'optique-là ? Tu as fait ton stage, tu ne travailles pas encore ? Enfin, tu travailles pour Libellude maintenant ?
Oui, j'ai fait un contrat pour eux, justement pour Fabula. Ouais. Donc oui, s'il y a d'autres occasions, pourquoi pas, si le jeu m'intéresse et si ça met en valeur mes illustrations, tout ça, et si je peux me développer dedans, bien au contraire.
C'est une manière un peu inattendue de faire du graphisme ou de faire de l'illustration pour toi ?
Oui, bien sûr, parce que moi d'abord, je ne me destinais pas au jeu. Je me dessinais avant tout à l'édition jeunesse pour tout ce qui est livres pour enfants et tout ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est un milieu que je connaissais pas. Donc du coup, comme je découvre, c'est très intéressant.
Un jeu de société, il y a du matériel qui n'est pas habituel. C'est-à-dire, c'est pas une feuille blanche, c'est pas une toile. Donc ça veut dire qu'il y a des cartes, il y a une manière de travailler. Est-ce que ça t'a appris des choses ou il y a des choses que tu dis, ça je n'y aurais jamais pensé parce que justement, d'illustrer une carte, c'était pas du tout le domaine.
Vu que le jeu se prête à l'illustration, donc c'est vrai que moi ça m'a pas posé problème. Mais comment dire, oui c'est vrai si pour les personnages, pour non parce qu'au final on le retrouve aussi dans l'illustration habituelle. Donc non ça m'a pas.
Cette première expérience, est-ce que ça te donne des idées de jeu ?
Non, moi je suis pas très douée là-dedans.
Tu vois que ça ait développé, que ça ait te donné une étincelle, de dire mais tiens justement. C'est une expérience vraiment hors du commun, on va dire. C'est pas une chose à laquelle tu es destiné. Et donc de dire, finalement, j'aimerais bien faire un jeu comme ça où j'ai des idées qui fusent comme ça. Peut-être un peu trop tôt.
Oui, voilà, peut-être.
écoute, bonne dédicace. Merci beaucoup, Mélanie. Et on se retrouve peut-être sur le prochain jeu illustré par Mélanie Fuentes.
Voilà, j'espère.
À bientôt.
À bientôt.
Et donc ça veut dire que vous avez inventé une trame ou une manière de jouer avec ces dessins.
Voilà, c'est ça. Et encore une fois, on voulait quelque chose où l'illustration soit centrale. Sans parler d'en faire notre marque de fabrique, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup déjà. Ça veut dire que là, c'est 7 mois de travail avec Mélanie. Et ce que j'aime bien dans ces collaborations longues, c'est qu'il y a vraiment une dimension humaine qui se crée, un échange véritable. Et ça, moi, je trouve ça super génial comme type de collaboration.
Ouais, tout à fait. Donc, tu l'as dit, c'est un jeu collaboratif ou coopératif dans le sens où on va créer une histoire tous ensemble. Donc, Fabula donne un peu l'idée d'une fable. On est enfin en train d'écrire les contes des frères Grimm, par exemple, sur base d'un thème de départ.
Voilà, donc c'est des contes de Grimm fictifs, vu qu'on les a écrits avec Jean-Louis. Donc, 20 petites histoires qu'on a pris beaucoup de plaisir à écrire, justement. Et alors, il y a deux versions, soit une version coopérative, où il n'y a pas de point, c'est-à-dire que les gens construisent ensemble une histoire, rebondissent sur leurs idées, soit une version un petit peu plus solitaire, où chacun essaye de proposer son idée et essayer de faire qu'elle plaise plus que celle du petit copain auprès du conteur Grimm.
Voilà. Ah oui, d'accord. Et donc ça veut dire que le côté coopératif, on se raconte une histoire et on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas, il y a une mécanique quand même, il y a un moment où...
Alors la mécanique, dans la version coopérative, le principe c'est juste d'écrire ensemble une histoire, de rebondir, écrire une fin du chapitre, entre guillemets. Et on arrête la partie. Donc là, juste un plaisir de partager ensemble, d'interpréter un personnage. Dans la version moins coopérative, où chacun joue un peu plus de son côté, on interprète toujours un personnage. Il va y avoir un prologue qui va être lu par le joueur incarnant Wilhelm Grimm, et trois chapitres qui vont proposer différentes problématiques. Une problématique par chapitre. Comment on pourrait faire ci, comment faire ça, Et les joueurs ont des cartes objets au milieu de la table et vont chacun devoir faire une proposition en essayant de respecter le rôle de leur personnage en utilisant un des objets présents au centre de la table. Forcément, il y a de moins en moins d'objets au milieu de la table au fur et à mesure des chapitres. À la fin du chapitre, il ne reste plus que deux objets présents. Et avec ces deux objets, les deux joueurs finalistes, ceux qui ont eu le plus de points par le compteur, doivent écrire une fin à ce compte en utilisant les deux objets qui n'ont pas utilisé. Donc là, il y a souvent un truc un peu rigolo parce que c'est souvent des objets qu'on a un peu de mal à placer, qu'on peut pas vraiment espérer les joueurs. Donc là, c'est assez rigolo cette fin de partie.
Alors il y a le jeu aide à rentrer dans le thème puisqu'on a des figurines qui sont assez grandes, hein, c'est des figurines qui permettent vraiment de rentrer dans le personnage. On est dans un jeu qui est à cheval entre le jeu de société, le jeu de rôle et l'improvisation.
Oui, c'est un peu ça, c'est un petit peu à part en fait. C'est vrai que c'est pas forcément un jeu qui va plaire aux joueurs qui ont vraiment envie de trouver une mécanique forte, quelque chose. C'est plus histoire de passer un moment convivial pour des gens qui n'ont pas forcément un imaginaire très très développé. Et le fait d'avoir des grandes images, des petits personnages illustrés, des cartes objets, des contes qui sont un peu déjà préécrits, c'est justement pour que les gens qui n'ont pas cet imaginaire hyper développé et qui aimeraient bien essayer de jouer à des jeux comme ça, un peu comme il était une fois, d'y arriver quand même. Nous, on a testé auprès de plein de gamins, des ados, tout ça, ça leur plaît vachement. Donc on a remarqué qu'il y a vraiment un public pour ça. Pas forcément les joueurs-joueurs, mais un public, on va dire, un peu plus familial, plus casual.
Alors j'ai lu dans un commentaire, je ne sais plus sur quel site internet, qu'il ne fallait pas s'arrêter à la première partie de Fabula, qu'il fallait un peu se forcer. Si on ne rentrait pas dedans la première fois, il fallait un peu se forcer pour se rendre compte de la valeur du jeu.
Oui, à la fois, il faut être aussi dans des bonnes conditions. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui le testent sur un salon. C'est vrai que c'est un jeu qui est dur parce que ça demande quand même un petit climat intimiste, les gens parlent beaucoup, ils ont besoin de s'entendre, sur un salon c'est pas l'idéal. Donc après c'est un jeu, faut prendre le temps aussi d'entrer dedans, faut être aussi détendu. Comme je dis, c'est pas un jeu on se dit tiens après une journée de travail arrache-pied trois jeux de stratégie. C'est vraiment le petit jeu pour se détendre, pour passer un moment convivial. Donc oui, après je pense qu'il y a des gens aussi dès leur première partie, ça sera pas leur type de jeu et il faut l'accepter et il n'y a aucun souci là-dessus.
Il faut pas. Typiquement, ce genre de jeu-là, il faut vraiment pas s'arrêter sur la première impression. C'est-à-dire, c'est pas une mécanique.
Il y a plusieurs façons de le jouer. Donc après, faut tester aussi la version coopérative. Si on pense qu'on n'a pas envie de s'embêter à compter les points, décider qui a une meilleure idée qu'un autre. Donc chacun trouve sa façon un petit peu d'y jouer. Ouais.
C'est là qu'il y a une liberté dans ce jeu-là.
Oui, il y a beaucoup de liberté. Les règles, il faut savoir aussi se les approprier parfois pour en faire un petit peu ce qu'on veut. Quoi.
Là, on retrouve, par la force des choses, le plaisir qu'on peut retrouver dans un Dixit, par exemple, c'est-à-dire qu'on a de l'intergénération, on a de l'imagination, on a de l'onirique, on a là où les gamers, à la base, ne s'y retrouveraient pas.
C'est ça. Peut-être que Fabula est un peu plus exigeant que Dixit en termes d'investissement personnel, vu qu'il y a une phase d'improvisation quand même. Donc quelqu'un de très introverti, parfois, je peux lui dire, bon, c'est peut-être pas le jeu auquel tu vas jouer, ou alors joue le rôle du conteur, vu que lui, il n'a pas besoin d'improviser, c'est lui qui va un petit peu être le meneur de la partie. Donc il est peut-être moins intergénérationnel dans le sens que Dixit où qu'on soit joueur, pas joueur, moins joueur, grand vieux, on peut tout jouer. Là il y a un peu plus de limites auprès de Fabula.
Est-ce que de ces deux jeux-là peut se déduire une certaine ligne éditoriale de Libellude en se disant Libellude va faire du jeu comme on dit, qui nécessite de l'imagination ou de l'investissement, de la communication?
Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est vrai que je trouve qu'il n'y en a pas forcément énormément. Quoique maintenant, il y a eu Speech, notamment, je pense à Mathieu Despneaux. Il y a eu, y a eu des jeux comme ça qui sortent. Cyrano, j'allais dire Soprano, je ne sais pas.
Défense, c'est une extension.
Peut-être. Voilà. Donc ça se développe. Mais c'est vrai que nous, s'il y avait une petite marque de fabrique pour cette gamme-là, il y aura d'autres gammes dans le futur qui seront un peu différentes. Mais c'est vrai, des jeux avec un visuel très fort, un imaginaire fort aussi, avec une touche d'onirisme, c'est vrai que c'est. Ça sera certainement un petit peu la gamme boîte carrée grand format.
Voilà. Ah, donc ça veut dire qu'il y a, il y a des choses sous le chapeau.
Il va y avoir une petite gamme de jeux qui va commencer en février. Le premier s'appellera Bugs & Co. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit jeu de rapidité de Bruno Feduti, des auteurs du Jungle Spin, Tom et Yako. Ouais. Voilà, donc moi j'ai vraiment eu le coup de cœur aussi pour ce jeu, très fun, des parties qui durent une minute. Et voilà.
Justement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pendant cette minute?
Une minute, il y a plein de petits insectes qui sont retournés, qui sont en trio, sauf qu'il n'y a que la couleur qui change. Il y en a qui vont être enlevés, et le but, les joueurs vont devoir frénétiquement, avec leur petite main droite seulement, retourner tous ensemble les monstres. Ils ont deux choix, soit ils reposent, soit ils le mettent dans leur main. Une fois qu'ils ont leur main, ils n'ont pas le droit d'y retoucher, ni le regarder, ni quoi que ce soit. On peut mettre fin à la partie quand on veut, c'est-à-dire qu'un joueur dit, bah voilà, moi j'arrête de chercher des petits monstres, je prends mon petit totem de points, il m'a marqué 3 points plus, etc., etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de joueurs. Et à la fin, on regarde qui a bien fait ses triplettes. À chaque fois que tu as 3 monstres identiques, ça te rapporte 3 points. Si tu en as 2 identiques, ben là, ça te fait 2 points négatifs. Si tu en as qu'un, c'est 1 point négatif. Donc c'est super rigolo, super fun et on se marre bien.
Ok, et ça veut dire que ce sera dans un format de petite boîte aussi reconnaissable, comme ça se fait de plus en plus maintenant, c'est-à-dire que chacun sort cette gamme de boîtes qui finalement on dit ah bah c'est un Libellude, finalement on va se le dire.
Ouais voilà, ce sera une petite boîte de 13 cm par 13, c'est un petit peu aux alentours du format Boomerang, donc un peu plus gros qu'un cocktail game ou un format kangourou, mais voilà, dans une gamme beaucoup plus petite. Voilà.
Ça c'est ce qui est en ligne directe après Fabula, il y a encore d'autres choses.
Voilà, il y aura un Dixit qu'on va appeler 3, mais bon c'est que le nom de code, ça sera un stand-alone. Donc là où il y aura aussi quelques surprises, un nouveau système de jeu, sans s'éloigner trop de Dixit, des nouvelles cartes.
Quoi, un nouveau plateau, nouvelle technique,
nouvelle mécanique. Une petite nouvelle mécanique aussi qui va être greffée, sans s'éloigner trop de Dixit, mais qui pour nous est super sympa. Et quelques petites nouveautés aussi au niveau graphique. Et voilà.
Qui dit Dixit dit Marie.
Il y aura Marie, oui.
Non, mais
il y aura aussi des surprises.
Oui, bien sûr. Quoi, Marie sera dans la boîte?
Ouais, mais ça, j'ai pas envie de le dire pour l'instant.
Ok, d'accord.
Donc, voilà, on verra plus tard.
Vous aurez le deuxième spin.
Ça va couper, j'espère. Voilà.
Parfait. Merci Régis. Et bonne chance pour la suite. Mais en tout cas, on vous suit de près. Merci.
Et bien, merci à toi.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.